Ailleurs que sur la Terre, la probabilité de trouver de la vie est extrêmement réduite.
L'association lausérienne pour l'étude et la protection de l'environnement.
Ouvrez grand les yeux, vous allez découvrir l'effet sans doute le plus immédiat des changements climatiques.
48 FM vous présente les chroniques de l'Allemagne.
Une telle profusion et variété de vie que l'on appelle aujourd'hui la biodiversité.
Muriel Duguay, les chroniques de l'Allemagne.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouvelle chronique de l'Alep. Bonjour Muriel.
Bonjour à tous, bonjour Corentin.
Alors la semaine dernière, tu nous as raconté une histoire sur le rouge-gorge, mais je me demandais entre-temps, c'est la période des migrations, mais pourquoi il n'est pas parti lui ?
Eh bien il n'est pas parti parce qu'en fait tous les oiseaux ne font pas pareil. Et que certes il y a des espèces qui migrent et qui vont très loin, comme la rousserolle effarvate qui peut faire plus de 5000 km entre la Lorraine où elle a niché et ses quartiers d'hiver.
Ah ouais, c'est pas comme nous quand même.
Non, c'est pas comme nous. Ouais, non, c'est... En fait, ils cherchent les bonnes conditions. Donc, il y a des oiseaux qui sont ce qu'on appelle des migrateurs au long cours, comme le martinet noir aussi, ou le rouge-queue à front blanc, et non pas le rouge-gorge, qui, en fait, traversent la France, l'Espagne, le détroit de Gibraltar, l'Algérie et le Sahara. Donc, c'est un très long voyage qui dure en général à peu près 2 mois. Il y a, la record... Woman
ouais.
de la migration au long cours, c'est la Sternarctique. Elle peut faire 40 000 km en allant de l'Arctique à l'Antarctique.
Waouh, ah ouais.
Voilà, donc et c'est...
Pourquoi tu dis elle peut ? C'est pas toujours le cas.
Si. C'est une erreur de vocabulaire. Elle fait 40 000 km.
Ouais, c'est incroyable, ok.
Voilà, après il y a d'autres espèces comme le héron, cendré, l'alouette ou notre rouge-gorge, qui sont des migrateurs partiels. Donc en fait, leur migration se limite qu'à quelques dizaines ou centaines de kilomètres. Donc en fait, ils vont descendre de la montagne à la plaine ou pour rejoindre des régions un peu plus douces comme le littoral méditerranéen. Donc en fait, le rouge-gorge, on a l'impression qu'il part pas parce qu'il y en a toujours en hiver, mais en fait ceux qu'on a vus en été se sont déplacés et ce sont d'autres rouges-gorges un peu plus au nord qui sont arrivés.
Là, c'est des échanges de population.
Exactement, ouais. Ça change. Donc en fait, c'est pas exactement le même. Vous pouvez changer son petit nom quand c'est l'hiver. Il y a des chances pour que ce soit pas exactement le même. Et puis, il y a ceux qui arrivent. Donc ce sont ce qu'on appelle les hivernants qui sont venus du nord de l'Europe ou même de la Sibérie et qui viennent stationner dans nos régions pour passer l'hiver. Donc c'est notamment des oies, des canards, et puis des pinsons du nord, et éventuellement quand il fait très très froid, les jaseurs boréaux. Ça c'est des petits oiseaux très colorés, qu'on appelle un peu les perroquets de Sibérie, qui sont très très jolis. Voilà, à guetter quand il fait très froid. Et puis il y a les oiseaux de passage, qui eux font que traverser nos régions, puisqu'ils viennent de Scandinavie et d'Europe centrale, et qui se rendent en Espagne et en Afrique. Donc il y a des petits échassiers, et puis il y a la grue cendrée, qui traverse nos régions, qui vole souvent de nuit et qui peut faire un chant magnifique en volant.
Ouais, mais c'est ça qu'on entend alors depuis
tout à l'heure. C'est ça qu'on entend, okay. Exactement. Et en fait, c'est un chant qui est assez déconcertant. Et en fait, dans certaines campagnes, quand on les entend voler et qu'on est au fond de notre lit et qu'on les entend chanter, on a plutôt l'impression qu'on a des grenouilles sur le toit. Donc voilà, le rouge-gorge migre un petit peu, il y en a qui migrent très très loin, il y en a qui ne font que passer chez nous.
Et ces migrations, elles sont liées au froid ?
Elles sont liées surtout à la ressource alimentaire. En fait, les oiseaux vont se déplacer en fonction de la ressource alimentaire et donc des bonnes conditions, des conditions favorables à ce qu'ils vont manger. Donc la plupart de ces oiseaux qui migrent beaucoup sont insectivores. Et bah, les insectes en hiver, il n'y en a pas beaucoup.
Ouais.
Donc, ils suivent leurs ressources alimentaires et ils vont dans des régions un peu plus accueillantes, comme la bondrée apivore. Alors, elle est spécialisée à l'extrême parce qu'elle mange que des larves de guêpes et d'abeilles. Et elle est chez nous à la belle saison. C'est un rapace qui ressemble un peu à une buse, un peu plus grise. Et elle est obligée de partir dès fin août. Par contre, ceux qui sont un peu plus omnivores, qui vont manger des graines, par exemple, sont capables de rester par ici parce qu'ils ont un régime alimentaire un peu plus diversifié.
Oui, et apivore, c'est la première fois que je voyais ce mot quand même.
Ouais, c'est vraiment très spécialisé. Mais en tout cas, ce qui est chouette, c'est que au final, c'est des animaux qui se déplacent au gré des ressources et qui n'ont pas de frontières. Donc,
ils vont là, y a à manger, quoi.
Exactement. Ça peut faire réfléchir. Enfin, si les humains avaient autant de liberté pour se déplacer là où il fallait, quand il fallait, ce serait chouette.
C'est vrai. De quoi voilà. Cogiter un peu.
Ouais, et après, il y a quand même des facteurs météorologiques qui rentrent en compte par rapport aux accidents de migration. C'est-à-dire qu'une tempête, une forte tempête, peut complètement dévier le cours d'une migration. Et c'est pour ça que des fois, on voit des oiseaux chez nous qui n'ont rien du tout à y faire. Donc là, pour ce qu'on appelle les cocheurs, ceux qui veulent absolument voir des espèces rares, c'est les bons moments.
Et c'est comment ça se passe après? Ils arrivent à retrouver leur chemin, ils repartent ou qu'est-ce que ça va influencer derrière?
Ça rallonge. C'est une grosse dépense énergétique parce que ça remue une tempête. Et donc en général, c'est souvent des oiseaux qui migrent en pleine mer qu'on voit rarement, qui au cours d'une grosse tempête sont déviés vers l'intérieur des terres ou se réfugient à l'intérieur des terres. Là, ils vont rester un petit peu à l'endroit où ils ont atterri pour reprendre des forces et puis après ils vont reprendre leur chemin.
D'accord.
Mais ça rallonge.
Voilà. En général, ils repartent, c'est instinctif aussi, ils repartent directement quasiment. Ouais. Et pour les autres animaux, comment ils se préparent pour l'hiver?
Eh ben, en fait, il n'y a pas que les oiseaux qui migrent, déjà. Il y a aussi des amphibiens qui migrent. On en avait parlé un peu au printemps, parce qu'ils migrent de leur gîte d'hivernage au lieu de reproduction. Et ben là, en fait, ils vont justement entamer une petite migration, ce qu'on appelle la migration automnale, elle porte bien son nom, pour rejoindre un gîte qui les protégera bien pendant l'hiver. Là, c'est pas comme le rouge-gorge qui cherche un sapin, c'est plutôt le crapaud qui cherche une souche.
Voilà. Ouais.
Et après, il y a des insectes aussi qui migrent, notamment des papillons. Chez nous, il y a le vulcain, qui est un petit papillon noir, orange et blanc, qui est capable en fait de traverser la Méditerranée pour aller dans des zones un peu plus confortables.
Voilà. Ah, lui aussi, il est balèze quand même. Ça aussi, c'est incroyable. Hein.
Ouais, c'est incroyable. Pour un petit animal comme ça, on s'en doute pas. Et puis après, y a d'autres animaux comme l'écureuil qui, lui, reste chez nous, qui ne migre pas du tout et qui, pour se protéger de l'hiver, va faire des réserves pour profiter sur une plus longue période de l'abondance de nourriture. Donc en fait, il enterre des fruits d'arbres, donc des glands, des noisettes, des noix. Et puis, il les stocke. Il stocke également des champignons. Et puis, en fait, il va redécouvrir ses cachettes au cours de l'hiver. Mais ça peut arriver qu'il ne les retrouve pas, parce qu'il peut être un peu tête en l'air ou qu'il n'en a pas forcément besoin.
On peut lui piquer aussi, des fois, non? Ça doit arriver, ça.
On peut lui piquer. Alors, il faut bien le surveiller pour savoir là où il va, où il va les planquer. Tu peux passer du temps à ça, si tu veux.
Non, je pensais plutôt aux autres écureuils.
Oui, exactement. Ouais. D'accord. Et en fait, c'est un rôle important aussi dans la régénération naturelle des forêts, puisque en fait l'écureuil va disperser les graines. Donc on va peut-être voir pousser un chêne très très loin des autres chênes parce qu'il aura été ramené par un écureuil qui n'aura pas mangé son gland dans l'hiver.
Tout le monde participe à cette biodiversité.
Tout le monde participe, exactement. Chacun fait sa part. Et c'est le cas aussi déjà des chênes ou du mulot. Voilà. Mais après, il y en a d'autres qui se préparent autrement à l'hiver et qui vont hiberner. Mais ça, c'est une autre histoire.
On voit ça la semaine prochaine.
Exactement.
Super. Merci beaucoup, Muriel.
À bientôt.